Merci à nos musiciens, merci pour toutes ces voix qui se lèvent pour célébrer Jésus, le Jésus sur son trône. Effectivement, ce week-end, nous, les chrétiens fêtent l'Ascension. Ils célèbrent le fait, comme cela a été dit, que Jésus est monté au ciel et s'est assis sur son trône, il règne en gloire. Concrètement, comment célébrer cette réalité? Effectivement, si c'est des jours fériés pour s'éloigner de l'Église, moins intéressant. D'autres ont essayé de capter, de célébrer cette réalité dans les édifices de l'Église avec un grand tableau, une peinture d'un Jésus auréolé sous le plafond. Peut-être ça rappelle les choses. Mais en fait, les protestants sont revenus à l'idée que si Jésus est roi, s'il est assis sur son trône, s'il est le chef de son Église, la meilleure façon de célébrer cette réalité, c'est d'écouter sa parole, c'est de lui donner la parole en tant que roi. Comme vous savez, un roi, il règne par sa parole. Dans le livre que nous étudions en ce moment, l'épître de Jacques, la Bible est appelée la loi royale, puisque c'est la parole du roi qui parle. Et plus une église est attachée à sa parole, plus elle vit la réalité de l'Ascension, puisque un roi parle. Un peu comme en Angleterre, il y a le roi en Angleterre, il y a des grandes intronisations avec beaucoup de pompe et de... Mais on ne veut pas vraiment l'entendre. Ce n'est pas lui qui dirige le pays, ce n'est pas sa parole qui dirige le pays. Le pouvoir vient d'autres instances, qui est peut-être une bonne chose politique, en tout cas dans le Royaume-Uni, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais ce roi-là, à la fois intronisé avec beaucoup de gloire, mais qui se taise. Des fois, nous faisons pareil avec Jésus. On veut bien l'introniser avec du rituel, avec des chants, avec un jour de congé, un jour dominical chaque semaine. Mais pour les vraies décisions, on va chercher d'autres personnes, on va écouter d'autres personnes. Et c'est cette idée que Jacques va corriger ce matin. Alors, je vous invite à chercher chapitre 1, versets 18 à 27. Jacques, chapitre 1, versets 18 et 27. C'est la suite de la semaine dernière où nous avons découvert que le Père, c'est Dieu, le Père des Lumières nous aime. Il fait toujours des bonnes choses dans notre vie, donne beaucoup de grâces excellentes, de dons parfaits. Et donc, je poursuis cette phrase, verset 18. Dieu, le Père des Lumières, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Nous disons que Jacques, l'avantage de cet épître, c'est que Jacques veut essayer d'être très pratico-pratique. Il veut enseigner la foi de façon pratico-pratique. Et le côté très pratique ressort peut-être le mieux dans ces versets-ci, où le sujet, c'est la parole de Dieu et l'appel à l'écouter, à la mettre en pratique. La chose la plus pratique et la plus utile que nous pouvons faire pour notre foi, c'est l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors ce matin, je vais nous inviter d'abord à être des écouteurs de la parole et ensuite des faiseurs de la parole. Soyons des écouteurs de la parole. c'est peut-être pas le mot qu'il faut, auditeur, mais j'utilise le mot de Jacques, et il l'utilise lui-même, il veut qu'on soit des écouteurs de la parole. Un écouteur, normalement, ce qu'on met dans les oreilles, littéralement, l'écouteur, c'est l'eau-parleur, et c'est votre oreille qui fait l'écoute. Nous sommes devenus un monde d'écouteurs. Quand vous allez dans le métro, tout le monde a ses écouteurs. Un article du magazine de mode masculin GQ disait récemment « Le dernier accessoire de mode n'est pas du tout un accessoire de mode. Ce sont des écouteurs haut de gamme qui font autant d'effet que tout ce que vous pouvez porter. » Voilà, si vous voulez à la mode, vous mettez des écouteurs. Même si c'est grand, c'est très à la mode. En tout cas, tout le monde écoute quelque chose et ce n'est pas nos oreilles qui ont un problème. Et Jacques ici nous encourage à écouter la parole de Dieu. Sachant qu'on, oui, on écoute avec ses oreilles, mais on peut aussi écouter avec ses yeux. Selon Jacques, verset 25, il parle d'un auditeur. Et un auditeur, c'est quelqu'un qui a plongé les regards dans la loi. Verset 25, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. Et après, il parle d'être un auditeur. Donc, on peut écouter avec son regard. Et justement, écouter la parole, c'est plonger ses regards dedans, c'est la lire, c'est la méditer. À notre époque, bonne nouvelle, cela n'a jamais été aussi facile d'écouter et de lire la Bible. J'ai sorti dans notre collection d'église une Bible. Voilà. Ça, c'est 1744, la Bible d'Osterwald. Alors, c'est déjà bien. Si vous voulez lire la Bible, vous pouvez le lire comme ça. Mais ce que ça représente au niveau de travail et de transport, c'est sûr que c'est moins pratique. Maintenant, il y a des éditions bien plus simples, donc ça... Ça, c'est la même, mais vous le mettez en poche. Ou bien celle-ci, pour 2,50 €. Alors, je ne sais pas ce que ça représentait comme coût, peut-être toute une année de travail, mais maintenant, pour 2,50 €, vous avez la Bible. En tout cas, on est gâtés, notre époque, à la fois sur la page imprimée, à la fois de manière numérique. Peu d'excuses de ne pas pouvoir écouter. La Bible, maintenant, la plupart des applications, vous pouvez soit la lire, soit l'écouter. Alors, pour être très pratico-pratique ce matin, voici quelques ressources pour vous aider, vous, à lire et à écouter la Bible, sachant que chaque dimanche, ici, il y a des gens qui viennent, peut-être pour la première fois, qui découvrent ce qu'est la Bible, et on est réjouis, on veut nous encourager les uns les autres. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, n'hésitez pas à demander à un voisin comment s'y repérer. Mais je commence juste avec le simple fait que la Bible, elle est divisée en livres et chapitres et versets. Donc la référence qui est affichée ce matin, Jacques 1, versets 18 à 27, ça rappelle cette division de livres, ensuite de chapitres, ensuite de versets. Les chapitres et les versets ont été rajoutés plus tard pour faciliter la lecture personnelle, la lecture en groupe. Jacques lui-même n'a pas écrit 18, 19, 20, 21, mais ça a été ajouté lorsqu'on a commencé à imprimer la Bible en forme de livre. C'était plus facile à se retrouver dans les pages. Mais si pour la première fois vous découvrez la Bible, vous voyez en haut du page, il y a le nom du livre. Et après, vous pouvez repérer avec des chapitres et des versets. Et c'est comme ça que nous fonctionnons ici. Chaque dimanche, nous annonçons le passage avec chapitre et verset. Ça, c'est un premier conseil pour se repérer. C'est Dieu lui-même a inspiré les différents livres de la Bible. Donc, c'est bien de pouvoir lire à travers un livre. Il y a des livres de l'Ancien Testament avant Jésus-Christ, les livres du Nouveau Testament après Jésus-Christ. Et voilà, vous pouvez comprendre sa pensée en lisant, par exemple, l'Épître de Jacques ou un Évangile de Marc. Et vous y trouverez avec des chapitres et versets. Autre chose utile pour se repérer dans l'écoute et la lecture de la Bible, c'est de savoir qu'il y a plusieurs traductions, plusieurs versions. Donc, entre chrétiens, entre protestants, dans notre église, on parle parfois de la version seconde. Louis II, c'était un pasteur, un théologien protestant, qui a traduit la Bible à peu près un siècle. Ça a été révisé à plusieurs reprises, mais voilà, c'est un peu la traduction de préférence pour notre église, mais il y en a bien d'autres. Donc, si vous allez à la bibliothèque, la librairie, je veux dire, vous pouvez acheter différents livres. On a une préférence pour la seconde. Et il y a aussi la Bible du Semeur, donc c'est une autre version. Vous pouvez les comparer, des fois un verset un peu plus clair dans telle traduction, des fois dans une autre. Donc, autant pour vous enrichir, mais c'est la même Bible à partir des mêmes textes d'origine. Et des fois, c'est juste le défi de traduire dans un français qui est actuel, mais aussi qui est fidèle au texte d'origine. Donc, pour vous repérer un peu dans les différentes traductions, ça, celle-ci, 2,50 €, ça s'appelle Seconde 21. Ils ont révisé la seconde et elle est aussi facile à lire. Vous avez, en plus de ça, vous avez des Bibles d'études où il y a le texte biblique et puis quelqu'un ou une équipe ajoute des notes en bas de page pour vous essayer d'expliquer peut-être des versets qui sont plus compliqués à comprendre. Je pense à ce premier verset que nous avons lu ce matin. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Je reconnais qu'il y a quelques difficultés ou quelques profondeurs théologiques qui nous a engendrés. Ça veut dire quoi, engendrer? Et puis, cette idée de prémisse. Donc, vous avez, par exemple, la Bible d'études de MacArthur, aussi disponible, Pain de vie, qui en haut, c'est le texte biblique. Il faut pas confondre, bien sûr, avec le texte inspiré. Ça reste la parole de Dieu. Le reste, c'est la pensée d'un homme. Mais ça peut nous aider. Par exemple, j'apprécie de creuser un peu. Selon sa volonté, eh bien, le mot grec exprime le fait que la régénération n'est pas uniquement un vœu pieux de Dieu, mais une expression active de sa volonté qu'il a toujours le pouvoir d'accomplir. Donc, on rappelle que c'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui nous fait naître de nouveau, qui nous donne la vie. Et ça, c'est très encourageant. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui, de sa puissance, de son action. Il nous a régénérés. Ou bien, il y a de prémices, ça, même moi, j'aurais tendance d'étudier ça, d'avoir besoin d'une telle note, parce que voilà, ça fait référence à l'Ancien Testament, à l'histoire juive, que je n'ai pas forcément eue en grandissant. Donc les prémices, à l'origine, une expression de l'Ancien Testament désignant les premières récoltes, la meilleure part que Dieu s'attendait à recevoir comme offrande. Offrir à Dieu cette première récolte constituait un acte de foi. Il fallait être convaincu que Dieu tiendrait sa promesse d'une bonne et abondante récolte à venir. De même, les chrétiens constituent la première preuve ou les prémices de la nouvelle création à venir et ils jouissent ici-bas, dans leur nouveauté de vie, d'un avant-goût de la gloire future. Donc voilà, on peut creuser un peu plus les mots comme prémices et ça donne une richesse à notre lecture. Donc, niveau débutant, c'est repérer chapitre, verset, livre. Ensuite, c'est de comprendre les différentes versions qui existent et chacune peut enrichir notre compréhension. Après, il y a des bibles d'études. Après, vous pouvez aller encore plus loin avec des ressources, des applications sur Internet ou smartphone. Il y a des applications Internet comme YouVersion ou plusieurs sites web, l'évangile.com, qui vous donnent plein de versions de la Bible, des notes. Et enfin, une autre chose que nous faisons pour écouter la Bible, bien sûr, c'est la vie d'église qui est essentielle aussi pour écouter la Bible. On n'est pas tout seul, mais on l'écoute ensemble dans ce que nous faisons chaque dimanche, ce que nous faisons en cellule, lorsque nous chantons à Dieu, mais nous chantons les uns aux autres pour écouter cette parole. Et encore, si vous voulez écouter d'autres prédications, une fois que vous avez une vie d'église en bonne santé, il y a des bonnes ressources aussi sur Internet. Vous pouvez écouter la parole, vous pouvez écouter les prédications dans vos activités quotidiennes, des sites web comme Tout pour sa gloire, où Un pasteur vous répond, où Évangile 21 offre aussi des sources de prédications. Donc ça, c'est juste un petit topo pour savoir écouter la Bible. Mais Jacques va plus loin. Il nous montre comment écouter de la bonne façon. Ce n'est pas tout d'avoir accès à la Bible, c'est déjà une grande grâce. Mais il y a une disposition de cœur que Jacques veut nous enseigner. Comme dans un couple, on peut écouter sans écouter. L'écoute passe par une disposition de cœur importante. Alors voyons un peu ses conseils sur la manière d'écouter. Sachez-le, frère bien-aimé, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc le premier conseil, pour être un écouteur, un bon écouteur, il faut savoir se taire. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Vous connaissez des personnes, certainement, qui savent tout, qui ne vous laissent pas placer un mot. Probablement, ces personnes aussi s'emportent facilement. Ils n'écoutent pas très bien. Donc déjà, relationnellement, c'est pas top. Mais nous faisons pareil avec Dieu, des fois. C'est bien d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, déjà dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et c'est aussi le contexte ici. Il nous invite à écouter la parole de Dieu. Donc, lent à parler, lent à se mettre en colère pour écouter Dieu dans sa parole. Vous savez bien que la colère n'aide pas à l'écoute, déjà entre deux personnes. La colère apporte rarement plus de vérité, plus de paix, plus de bien-être, plus de solutions, plus de réponses. Et vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. Si vous êtes en colère contre Dieu ce matin, peut-être à cause d'une épreuve ou d'un passé difficile ou une religion qui vous a déçu, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas une bonne façon d'avancer dans votre foi. Ne restez pas là. Essayez, comme dit Jacques, de recevoir, verset 21, de recevoir avec douceur la parole. Vous voyez la disposition de cœur, recevoir avec douceur, recevoir avec l'humilité. C'est ainsi que la parole de Dieu peut vraiment agir. Savoir se taire, c'est savoir aussi faire taire les distractions dans notre vie. C'est étonnant, mais déjà à son époque, Blaise Pascal, 1650, avait cette pensée pertinente. Il dit « J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Pascal, une de ses pensées, dans ses célèbres pensées, « J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Dans une autre pensée, il parle du problème de nos divertissements. Et ça, c'est en 1650. Écoutez ce qu'il dit. « Ainsi, par un étrange renversement de la nature de l'homme, il se trouve que l'ennui, qui est son mal le plus sensible, est en quelque sorte son plus grand bien, parce qu'il peut contribuer plus que toute chose à lui faire chercher sa véritable guérison. Et que le divertissement, qu'il regarde comme son plus grand bien, est en effet son plus grand mal, parce qu'il éloigne plus que toute chose de chercher le remède à ses maux. » Et ça, il ne connaissait pas encore les AirPods. Le divertissement qu'il regarde comme son plus grand bien est en effet son plus grand mal, parce qu'il l'éloigne plus que toute chose de chercher le remède à ses maux. C'est savoir écouter, c'est savoir faire taire les distractions et être prompt à écouter, comme dit Jacques. Donc savoir se taire, pour être un bon écouteur, il faut aussi déblayer le plus gros des obstacles. Verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole. » Souillure et débordement de méchanceté, il dit, il faut rejeter si on va avancer dans l'écoute de la parole de Dieu. Mes enfants, les plus petits, aiment bien que je leur lise le soir. Mais si la chambre est en bazar, si eux-mêmes sont en train de se disputer, ce moment de lecture peut être compromis. Ou comme disait cet évangéliste célèbre, la Bible vous gardera du péché, ou le péché vous gardera de la Bible. Des fois, on sait très bien qu'il y a un gros péché à traiter, qu'il faut rejeter. Et tant qu'on ne le rejette pas, l'écoute de la Bible va... On ne va pas pouvoir avancer. On ne va pas recevoir avec douceur. Il est gros comme ça, on le sait. Donc, déblayer le plus gros pour bien écouter. Et enfin, pour être un bon écouteur, c'est se souvenir que cette parole est semence. Verset 21, il avait déjà dit en verset 18, mais il rappelle, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Certainement, Jacques, le frère de Jésus, Jacques s'inspire des paraboles, des enseignements de Jésus, qu'il a utilisé souvent l'idée que sa parole est comme une semence. Avec, vous avez peut-être entendu parler du parabole du semeur. En tout cas, Jésus a souvent enseigné et avec cette image que sa parole est comme une semence de vie, une semence qui contient une puissance de vie, une puissance de croissance dans nos vies. Et lorsqu'elle est implantée, lorsqu'elle est plantée au bon endroit, à savoir un cœur fertile, alors ça porte du fruit. Et cette pensée peut nous encourager des fois quand on a du mal à écouter la parole, de se rappeler que c'est une semence et que ça va faire son travail. Par exemple, si vous lisez une portion de la Bible et vous dites « Ah, bah, je n'ai rien compris !» Ça nous arrive, ça peut arriver à tout le monde. « Je n'ai rien compris !» Pensez à cette idée que la parole est semence, comme dans les paraboles de Jésus. Une première chose serait de prier que Dieu ouvre votre cœur. Seigneur, ouvre mon cœur. Peut-être j'ai un cœur endurci qui a besoin d'être adouci pour recevoir ta parole. Peut-être vous avez commencé avec un passage difficile à comprendre, tout simplement. Et un conseil serait de lire un évangile, par exemple. Lisez la vie de Jésus-Christ dans un évangile. Là, vous pouvez prier, montre-moi Jésus. Et je suis sûr que dans cette attitude-là, vous allez comprendre. Les évangiles ne sont pas difficiles à comprendre. On y rencontre Jésus-Christ dans son amour, dans sa beauté, dans sa pertinence. Donc, je n'ai rien compris. Une solution, c'est prier que Dieu ouvre le cœur. Et puis, laisser le temps agir. Je n'ai rien compris, mais peut-être la semence, elle est en train de prendre. Donc, on peut relire, on peut repasser. On peut donner du temps aussi à ce que la parole fasse son effet, telle une semence. Donc ça, c'est vous écoutez, je n'ai rien compris, eh bien Dieu peut aussi vous donner la compréhension. Vous écoutez, vous lisez, et puis vous dites, j'ai écouté, mais je ne suis pas d'accord. J'aime bien le conseil, c'est dans nos cours découvertes d'un pasteur, il dit, oui, on peut comprendre ça, mais si vous tombez sur un passage qui vous semble dur, ou démodé, ou pas en phase avec ce monde actuel, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, rappelez-vous que dans toute véritable relation personnelle, votre vis-à-vis doit pouvoir vous contredire. Si vous éliminez de la Bible tout ce qui offense votre sensibilité et s'oppose à votre volonté, vous aurez essentiellement un Dieu à votre image, un produit de votre imagination. Accepter que Dieu puisse nous remettre en question par sa parole, c'est ce qui permet une relation personnelle intime. C'est vrai, quand on met une semence en terre, la semence va, il peut même bouger des choses, il peut briser le béton et il a besoin de prendre sa place. Donc, des fois, les racines peuvent être envahissantes. Mais quand c'est les racines de la vérité, oui, elles peuvent bousculer un peu. Mais la parole est semence, laissez cette parole agir. Même si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez avoir une vraie relation avec Dieu, il doit pouvoir vous contredire. Vous écoutez, vous voulez être un bon écouteur, alors vous dites, mais c'est bon, j'ai déjà écouté, j'ai déjà lu, j'ai tout lu, donc j'ai plus besoin, c'est bon. Mais une semence, vous savez bien, une semence ne cesse de croître. Une semence a besoin d'entretien, une semence veut être arrosée, une semence se multiplie. On n'a jamais fini, nous, de découvrir toutes les richesses de sa parole. Et si vous savez tout déjà, venez prêcher, venez enseigner d'autres. Vous allez voir que peut-être vous ne savez pas tout déjà et que vous allez encore découvrir lorsque vous transmettez, lorsque vous enseignez d'autres. Et enfin, pour être... on entend parfois, je n'ai pas le temps. Oui, c'est vrai que les soucis, les richesses de ce siècle, des fois, étouffent la parole, empêchent la lecture. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment l'excuse? N'avez-vous pas le temps pour surfer l'Internet? N'avez-vous pas le temps pour faire du sport? N'avez-vous pas du temps pour manger? N'avez-vous pas du temps pour aller au travail? Mais la bonne nouvelle, c'est que ces activités peuvent souvent être alliées à l'écoute de la parole. Vous pouvez aller au travail en écoutant un message. Vous pouvez faire du sport en écoutant la Bible. Vous pouvez manger et discuter à table ou lire la Bible en famille. Vous voyez, c'est merveilleux. Donc, soyons, selon dit Jacques, des écouteurs de la parole. Mais il faut aller plus loin si on veut vivre cette foi de façon pratico-pratique. Non seulement des écouteurs de la parole, mais des faiseurs de la parole. Jacques devient encore plus pratico-pratique. Non seulement il faut écouter la parole, mais devenez quoi ? Il faut la mettre en pratique. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et pour enseigner cette vérité, il utilise l'image du miroir. Verset 23. Un miroir nous renvoie une vraie image de ce que nous sommes. Mais en général, on se met devant le miroir parce qu'on veut savoir quels sont nos défauts, quelles sont les choses qu'il faut corriger. Donc ce matin, vous êtes mis devant le miroir, probablement c'est pour se coiffer, se maquiller, se laver, si vous voulez changer un peu votre aspect, pour être plus présentable. Sans le miroir de la parole, c'est facile d'oublier ce que nous sommes vraiment. Et donc Jacques, il utilisait cette image, oui, c'est une chose de le lire, mais si on ne le met pas en pratique, on est comme celui qui regarde le miroir et qui ne fait rien, qui oublie à quoi il ressemble et qui vit sa vie comme ça. Justement, la Bible nous montre ce que nous sommes vraiment, telle l'image du miroir, mais aussi, elle nous montre concrètement ce qu'il faut faire pour changer, pour mettre en pratique, pour vivre la foi. Regardez 25. Donc après l'image du miroir, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, tel un miroir, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il appelle la Bible la loi de la liberté. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc cette Bible, cette parole, comme un miroir, offre, est quand même quelque chose qui nous offre la liberté, le bonheur. Mettre en pratique la parole, c'est souvent vivre la liberté, découvrir une nouvelle dimension de la liberté en Christ. Cette semaine, c'était particulier, c'était l'Ascension, mais c'était aussi le 8 mai. Donc on avait un jour férié de plus, sympa. Le 8 mai 1945, les journaux annonçaient la fin de la guerre en Europe. Donc cette nouvelle était proclamée partout et on pouvait écouter cette nouvelle. Alors on écoute la nouvelle de la capitulation des Allemands, on écoute la nouvelle de la victoire. Comment mettre en pratique cette nouvelle? J'ai sorti un journal du 9 mai. Le monde respire et chante. Une marée de joie a submergé Paris, toute la France. Le jour de gloire est arrivé. Le monde respire et chante. Voilà. Donc, on écoute la nouvelle de la liberté, de la victoire. Comment mettre en pratique? Eh bien, c'est chanter, c'est respirer, c'est se réjouir de la victoire. De la même manière, souvent, lorsque nous lisons la loi de la liberté, lorsque nous lisons la bonne nouvelle, lorsque nous lisons les évangiles, et toutes les implications, la manière de mettre cela en pratique, c'est de chanter, comme nous faisons ce matin, c'est de se réjouir du pardon de Dieu, c'est de se réjouir de la victoire qu'il nous offre, de l'espérance. Vous savez, la plupart des passages de la Bible que vous allez lire, vous les lisez à la lumière de la victoire en Christ, la manière de les mettre en pratique, pas forcément des rites religieux, des traditions humaines d'ailleurs qui sont souvent même pas dans la Bible. La manière de mettre ça en pratique, c'est pas un activisme coupable. La manière de mettre ça en pratique, c'est souvent au niveau du cœur. Plus de confiance, moins d'inquiétude, saisir son pardon, aller pardonner aux autres. Vivre l'amour, Jésus m'a aimé, donc je peux aimer les autres. Ça, c'est des attitudes de cœur qu'on peut mettre en pratique. Bien sûr, il y a des fois des choses très concrètes que des fois il faut faire. Mais souvent, derrière, il y a cette joie, cette liberté. C'est pour ça que toute la Bible est appelée loi de la liberté. Se dire, Jésus me connaît mieux même que le miroir, et en plus, il m'aime. Ça, on repart. Comment mettre ça en pratique? Eh bien, on repart avec espérance, avec joie. Pour terminer sur une note hyper pratique, Jacques nous donne trois exemples pratiques de ce qu'il appelle la vraie religion. Donc ça, c'est des exemples des gens qui mettent en pratique la parole. Verset 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Trois exemples pratiques, maîtriser sa langue, prendre à cœur les plus vulnérables et se préserver des souillures du monde. Ces trois exemples sont assez curieux. Quel rapport les uns avec les autres? Ce ne sont pas les trois exemples qui me seraient immédiatement venus en tête pour parler de la pratique de la foi. Justement, il ne parle pas des activités religieuses, il ne parle pas de la prière, il ne parle pas de la fréquentation d'église. Brider sa langue, visiter les veuves et se préserver des souillures. En plus, ils sont un peu différents. Visiter les veuves, c'est très pratique, c'est très concret. Maîtriser sa langue, c'est tout un programme. Il va dédier tout le chapitre 3 à ce vaste projet. Et puis, se préserver des souillures du monde, là, c'est tout, c'est abstrait. Il met tout ça ensemble. Ce qui est intéressant à noter, ce sont des choses qui sont difficiles à faire hypocritement. Religieusement, se préserver des souillures du monde, aller visiter, prendre soin d'un orphelin, d'une veuve, brider sa langue. Il y a la sorcière dans Blanche-Neige, elle a son miroir, qui est la plus belle dans mon royaume? On peut retourner la question face à la Bible, qui est le plus spirituel? Dans l'Église. Et le miroir de la Bible opère sa magie et dit voilà les critères de Dieu. En fait, ces exemples-là, ce sont des exemples qui reflètent le caractère de Dieu lui-même. Le Père des Lumières qui nous a enfantés par sa parole, par sa vérité. Lui, il parle toujours selon la vérité, avec amour. Eh bien, ses enfants devraient aussi. Donc, oui, il faut maîtriser la langue. Dieu, ce Père des Lumières, il aime les vulnérables et les faibles et leur accorde sa grâce. Alors, ses enfants aussi se comportent comme ça. Dieu, ce Père des Lumières, justement, il est lumière, il est sainteté, il est pureté. Donc, ses enfants aussi se préservent des souillures du monde. C'est peut-être pour ça que Jacques sort de tels exemples. Ce sont pas vraiment des pratiques religieuses, c'est plutôt des pratiques qui montrent un cœur qui ressemble au cœur de Dieu. Et pour toutes ces dimensions très pratiques de la foi, il nous faut, oui, regarder à Christ, celui qui les a incarnés. Il nous faut ce nouveau cœur qui vient par la volonté du Père, lorsqu'il nous régénère, lorsqu'il nous recrée pour vivre une vraie foi. Alors ce matin encore, mettons-nous devant le miroir de sa parole. Quelle image vous est renvoyé? Est-ce qu'il y a des défauts à corriger? Est-ce qu'il y a des imperfections, des souillures qui vous sautent au visage? Eh bien, Jésus a tout fait pour vous perfectionner, vous aider. Il vous a donné sa parole qui peut encore, comme une semence, créer la vie et la croissance. Que Dieu nous aide à être une église attachée à sa parole, soumise à cette loi royale du Jésus qui règne dans le ciel. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour cet accès si direct, si facile que nous avons à ta parole quand on compare les générations précédentes et les siècles avant nous. L'accès à ta parole n'était pas si évident et donc qu'est-ce que nous sommes des privilégiés. Mais nous te demandons pardon pour les fois où nous n'avons pas profité d'un si bel accès pour l'écouter, pour la méditer et surtout pour la mettre en pratique. Nous te prions que, en tant qu'Église, nous soyons non seulement des écouteurs, mais aussi des faiseurs de ta parole. Nous te prions que tu opères cela au fond de notre cœur, que tu les transformes, que tu places, que tu implantes ta vie dans nos cœurs pour produire cette vraie foi, cette vraie religion qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas de façade, mais qui est authentique. Nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ta parole pour cela. Et nous te demandons de le faire par Jésus-Christ. Amen.